personnellement, là, j'avais plus de repères, j'avais plus rien. Mm-hmm. Puis là, en entendant cela, c'était comme ça me disait, parce que là, il décrivait c'est quoi le problème avec l'être humain, d'après ce que Jésus-Christ nous révèle, d'après ce que la Bible dit, tu sais, mm-hmm. tout ce qu'il disait, là, l'immoralité. J'avais vécu ça. Le manque de respect pour les parents, la désobéissance sociale, la rébellion personnelle. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Là. Mm-hmm. Je sais que c'était une réaction en grande partie, mais je me voyais dans ça. Mm-hmm. Puis là, il a dit, mais là, tu peux demander. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je devienne membre de votre groupe, quoi que ce soit. Dit, pas du tout, c'est pas notre groupe qui est important. C'est une relation personnelle. Puis il dit, tu peux inviter Jésus à venir dans ta vie. Mm-hmm. Puis il nous dit, quiconque le reçoit, qu'il va leur donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Je dis, OK, je suis prêt à le faire. Je dis, comment est-ce qu'on fait ça? Mais il dit, regarde, je vais faire comme si j'étais toi. Puis là, je vais demander, Jésus, je comprends ce que tu as fait pour moi. Je comprends que tu m'aimes, que tu es mort sur la croix, puis que tu veux venir dans ma vie, puis être mon sauveur personnel. Je t'invite à venir, puis à me donner cette vie-là. Fait que là, alors qu'il disait une phrase, je répétais la phrase. Il dit, parle-moi pas, parle à Jésus. Puis à la fin, j'ai dit, amen. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, oh, il y a quelque chose que j'ai recherché quand j'allais voir des voyants, que j'ai recherché quand je faisais les rencontres avec des guides spirituels, toutes sortes de spiritisme, puis toutes sortes de choses que je voulais avoir une expérience interne, parce qu'à l'externe, mon père m'avait dit, la vie, c'est de travailler, gagner son pain, puis s'amuser, puis c'est juste le matériel qui est important. Mais là, j'ai dit, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait qu'il a dit, mais la Bible nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, qui est rentré dans cette relation-là, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, la Bible dit que tu es maintenant sauvé, converti, puis ainsi de suite, puis que Dieu maintenant vit en toi, puis il va t'accompagner dans ta vie. Là, je suis parti, puis je marchais, puis je m'en allais, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, j'avais des doutes, là, parce que toute ma programmation au secondaire, au cégep, les choses que j'avais entendues venaient me dire, hey, tu viens d'embarquer dans une secte. Là, j'appelle des amis, puis je leur partage mon expérience, et on dit, retourne pas là.
Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que vous connaissez probablement pas. Il s'appelle Jean Rousseau. Je l'ai rencontré après une de mes conférences que j'ai données dernièrement, qui était sur l'éducation à la sexualité dans les écoles. Il est venu se présenter à moi et en quelques phrases, il m'a résumé son vécu et je lui ai dit « Est-ce que tu veux venir parler à mon micro? » J'ai trouvé ça touchant, percutant, et je savais que ça pouvait inspirer d'autres personnes d'entendre par quoi il est passé et surtout témoigner sa résilience et la magnifique personne qu'il est devenu. Alors, je vous avertis, c'est un témoignage difficile, un témoignage d'abus sexuels, un témoignage d'inceste, mais surtout un témoignage de résilience. Bonne écoute. Jean, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Écoute, on s'est rencontrés à ma conférence que j'ai donnée sur l'éducation à la sexualité dans les écoles. Tu étais présent, tu es venu me parler, j'ai apprécié. Tout de suite, quand tu es arrivé, j'avais vraiment l'impression de te connaître, vraiment beaucoup. Puis, j'arrive pas à dire si tu me fais penser à quelqu'un, mais en tout cas, c'était fort. Puis finalement, tu m'as parlé, puis après 2 minutes, j'ai dit, veux-tu venir à mon podcast? Tu as dit oui. Ton témoignage, je me suis dit, je pense qu'il peut servir à beaucoup de gens, il peut être inspirant. Je trouve ça important de parler des dérives au niveau de la sexualité puis de l'enfance, parce que la ligne est brouillée beaucoup. En ce moment, juste pour mettre en contexte, ce qu'on enseigne dans les écoles de plus en plus, c'est la sexualité positive, puis toute la notion du consentement. On est tous d'accord qu'une fille à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est bien d'y apprendre qu'elle peut consentir ou non à un acte sexuel, mais d'apprendre à un enfant de 4 ans le consentement, ça ne marche pas. Un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Et là, on rentre dans cette espèce de brouillard où on normalise un peu la pédophilie. Là, je résume très rapidement le thème de ma conférence parce que ça va être le thème. Je mets la table un peu pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis la sexualité positive, en fait, ça aussi, pour moi, c'est un brouillard parce que dire que des touchés peuvent être agréables, puis ça, c'est correct, ça crée vraiment une zone de turbulence pour un enfant qui se fait abuser sexuellement ou dans son corps, il peut avoir des sensations positives, mais que dans sa tête, puis tout ailleurs, c'est une trahison, c'est un inconfort, c'est de la honte, c'est du dégoût. Mais malgré tout, il peut avoir eu des sensations agréables dans son corps. Fait que ça crée vraiment, à mon avis, puis pas seulement moi, il y a plein de sexologues, de psychologues, de pédopsychiatres qui prennent la parole, qui disent ça, c'est une dérive, ça marche pas, tu sais. Ça va même à l'encontre de ce qu'on devrait faire pour un enfant. Ça va pas l'aider dans l'épanouissement de sa personnalité, de son développement. parents. Alors, je trouve ça super le fun. Aujourd'hui, on va discuter de ton vécu. J'ai fait un préambule, mais je pense que c'est important de mettre la table. Premièrement, Jean, veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'amène à mon micro aujourd'hui? Pourquoi es-tu avec moi aujourd'hui?
Oui, effectivement, on s'est rencontrés. Moi, j'ai déjà écouté amplement le matériel que tu produis. Puis juste en passant, c'était dans les 5 conférences de dire entre les lignes, c'était surtout ta conférence que j'anticipais parce que je savais comment est-ce que tu faisais les recherches, je savais comment est-ce que tu faisais une présentation très... on pourrait dire raisonnable des choses aussi. Donc là, je suis allé à la conférence, puis je t'ai entendu. Puis à un moment donné, je ne sais pas si c'était Jean-Paul Sartre, j'essaie de me souvenir de l'auteur d'une citation que tu as dit.
C'est Victor Hugo.
Ah, Victor Hugo. J'ai dit, c'est-tu Dostoïevski? Je pensais à toutes sortes de... Oui, oui. Mais c'est sûr, quand il le dit, laissons les enfants être des enfants, puis ta réaction, c'est tellement important qu'on le fasse. Fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que j'aille la voir, puis que je lui dise, écoute, par expérience, je peux te dire que c'est très important. Parce que moi, j'ai un vécu vraiment très particulier, je vais pouvoir te le dire dans un instant, ou à moins que ça soit maintenant que tu veux que j'embarque dans
ça. On pourra déballer ça après.
Continue. OK, mais... avec tout ça, ben là, tu m'as invité à venir nécessairement. Je me suis dit, ça va donner l'opportunité de faire une mise en garde, de peut-être faire de la prévention pendant la COVID, pendant la pandémie. J'ai cherché à faire beaucoup de prévention par les réseaux sociaux, mettre du matériel, des recherches, des études scientifiques, des citations d'experts.
Qui apportaient un point de vue différent de ce qu'on nous donnait à la télévision.
Puis mon objectif étant un pasteur, parce que ça, je ne l'ai pas dit encore, mais je suis un pasteur.
Coup de théâtre.
Un pasteur évangélique. Puis, mais à travers tout ça, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de justement des ouvriers, ministres du culte, dirigeants dans les églises qui prennent position. Puis moi, je vois ça comme une responsabilité puisque le chrétien doit gérer sa vie devant Dieu, nécessairement, d'après les informations qu'il a. Puis s'il n'a pas les bonnes informations, il va faire les mauvais choix. Donc, j'ai mis beaucoup de choses, mais toujours dans cette optique-là de prévention, encourageant les gens à analyser les choses, encourageant les gens à faire des recherches. Puis, quand tu m'as donné cette opportunité-là, tu as dit, est-ce que tu aimerais venir? Je me suis dit, bon, là, avec mon vécu particulier, c'est peut-être un avertissement puis une prévention de ne pas jouer avec certains éléments, comme tu avais présenté dans la conférence avec les abus, les excès du système de l'OMS, pas du système, mais du programme, du curriculum, de l'UNESCO, de l'ONU, puis ainsi de suite, de voir, waouh, il faut vraiment accompagner nos enfants puis être prudent. Oui, envers eux.
Parce que les instances internationales prônent toutes les mêmes idéologies. Puis dans le fond, les deux idéologies que je dénonce dans ces programmes-là, c'est l'idéologie de l'enfant sexualisé, qui est vraiment partout maintenant. Là. C'est impossible. C'est très difficile de trouver un organisme qui n'a pas adhéré à cette idéologie, que l'enfant donc a une sexualité dès 0 ans. Et dans des programmes, c'est qu'il faut l'éduquer à sa sexualité dès sa naissance. Bien sûr, en rapport avec l'âge, mais déjà, ça crée vraiment une zone de trouble quand on sait, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais je l'ai fait dans ma conférence, d'où vient cette idéologie-là, d'où vient cette étude. Et c'était vraiment des enfants qui ont été violés par des pédophiles. Puis là, on a fait, ah, mais oui, regardez, les enfants sont capables de vivre des orgasmes. En tout cas, j'y reviendrai dans une autre... Alors, il faut comprendre d'où ça vient, c'est très important. Puis l'autre idéologie qui est vraiment partout, c'est l'idéologie queer et de l'identité de genre. Là. Donc, le genre est un spectre. Et donc, nos enfants, un jour ou l'autre, vont être exposés à ces idéologies-là. Et nous, les parents et les citoyens, je pense qu'on a la responsabilité de protéger les jeunes dans la société, pas juste ceux qui vivent dans ma maison, les jeunes en général.
C'est ça.
Je pense qu'on partage cette volonté aujourd'hui d'amener une discussion publique. Puis, tu sais, comme je disais à ma conférence, les gens ne peuvent pas être vigilants s'ils ne comprennent pas la problématique. Mon but, c'est d'expliquer qu'il y a une problématique. Après, vous faites ce que vous voulez. J'aimerais ça qu'on rentre donc un petit peu dans ton vécu à toi. Tu es né dans une famille, on pourrait dire, atypique. Peux-tu nous parler un peu de ça?
Oui, en fait, mes parents étaient le produit de la Révolution tranquille des années 60-70. Eux-mêmes, en tant qu'individus, avaient vécu des choses dans la religion populaire, si on pourrait dire du Québec traditionnel, du Québec. Ma mère avait perdu sa mère lorsque sa mère s'est mariée, elle avait 17 ans, rapidement, parce que je sais qu'on ne veut pas prendre trop de temps. Elle avait 17 ans, puis à l'époque, ben, le dogme non officiel, c'était d'avoir un enfant par année. Donc, elle est tombée enceinte tout de suite après son mariage. Elle a eu son premier enfant. La deuxième année, un deuxième, la troisième, un troisième, quatrième, cinquième, un cinquième. À 24 ans, elle avait 5 petits-enfants.
Aïe, aïe, aïe.
Et elle était très, très faible. Ça, c'est ma grand-mère du côté de ma mère.
OK.
Puis, finalement...
Quand tu dis elle était faible, tu veux dire physiquement?
Physiquement, là, elle était épuisée, elle était brûlée, elle avait des problèmes de santé.
OK.
Puis là, le médecin lui a recommandé, et son mari a acquiescé, que ça serait bon de prendre au moins une année faisant bien attention pour tomber enceinte, pour s'assurer de récupérer, prendre soin des 5 petits qu'elle avait, puis récupérer. Mais étant une femme de foi, elle est allée voir le prêtre du curé, le curé du village, et elle lui a demandé, elle a dit, là, elle dit, j'ai ce dilemme-là, l'Église nous dit qu'on devrait avoir des enfants, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc, en tant que représentant, elle lui a fait confiance quand il lui a prophétisé qu'elle allait avoir 12 enfants et qu'elle allait vivre une vie, une longue vie avec ses enfants.
Okay, il était devin en plus, lui.
Ben,
capable de voir le
je ne peux pas savoir exactement c'était quoi sa motivation. Ouais. Moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande de faire en tant que dirigeant, de faire une prophétie. On encourage les gens à chercher la volonté de Dieu puis à examiner c'est quoi les risques, et ainsi de suite. Bon, surtout avec son mari, de vraiment faire front commun dans cette décision. Puis finalement, donc, elle est revenue, puis elle a dit à son mari, elle a dit, j'aimerais ça qu'on ait un autre enfant, puis Dieu va nous bénir. Donc, elle est tombée enceinte. Elle a
accouché.
Était
fertile, en tout cas. C'était
oui, oui, ben oui. Puis elle a accouché de son 6e enfant. Et quelques mois après, elle a attrapé, j'essaie de me souvenir, une pneumonie, quelque chose de simple. Et elle est décédée.
Oh mon Dieu, à 26 ans.
Oui, donc là, ce qu'ils ont fait, c'est à cette époque-là, il n'y avait pas de gestion du gouvernement. Donc, des membres de la famille sont venus chercher chacun des enfants, puis sont partis avec les enfants. Et ma mère, qui était une des dernières, n'a jamais connu sa mère. Puis elle a été élevée par une tante sur une ferme qui était très austère.
Oh mon Dieu.
Elle a beaucoup, beaucoup souffert sous cette femme-là. Donc, elle a gardé dans sa perspective l'idée que la religion, on enlève ça de notre vie. Mm-hmm. Elle a jeté le bébé avec l'eau du bain.
Mm-hmm. Comme beaucoup de Québécois, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mon père, lui, dans son éducation, a eu affaire avec un prêtre qui l'a abusé sexuellement. Donc, tous les deux, rendus à 18 ans, ont dit...
Ils ont touché au ce qu'il y a de plus laid, finalement, de la religion.
Oui, bien oui. Fait qu'ils ont dit, on enlève ça de notre vie, on va vivre une vie datée. Puis finalement, ils ont pris leur athéisme puis ils l'ont amené à son paroxysme, à son extrême, alors qu'ils sont devenus hédonismes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le plaisir personnel au détriment des autres était maintenant le sens de la vie. Donc, mes parents, dans les années 60, étaient des échangistes. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'ils allaient dans des fêtes, des partous, puis ils allaient, ils couchaient, ils s'échangeaient les partenaires. Puis non seulement ils faisaient ça chez d'autres personnes, mais ils faisaient ça aussi chez nous. Donc, dans ma tendre enfance, j'habitais à Anjou, à Montréal. Dans notre appartement, dans le sous-sol, on avait une chambre d'orgie. J'appellerais ça juste comme
réservée à cet effet.
Oui, oui, avec des posters de femmes nues, d'hommes nus. Puis je ne rentrais pas dans tout ce qu'il y avait dans cette pièce-là.
Mais toi, tu pouvais y aller comme enfant?
Ben oui, moi, j'avais la responsabilité de... J'avais... C'était... Ça faisait partie de notre maison. Donc, on descendait en bas, puis ainsi de suite. Mais là, j'avais... On a quitté... J'avais 7 ans quand on a quitté Anjou pour s'en aller à Boucherville. Mais moi, j'étais confus parce que je ne comprenais pas c'était quoi des gens nus, premièrement, parce que là, c'était des posters. Il y avait des films porno qui jouaient sur les écrans. Il y avait toutes sortes de choses là, que moi,
mais
je comprenais pas.
Mais que tu étais exposé à ça?
Oui, ouais, j'étais exposé à ça. Mes parents, eux, ils ont été influencés par différents psychologues progressifs des années 60, disant que les enfants devaient expérimenter leur sexualité dès la tendre jeunesse.
En suivant finalement l'idéologie de Kinsey, là, dans la main...
Moi, je sais que Dr. Spock, c'est un qui avait influencé les idées de mon père.
Okay.
Mon père, c'était surtout celui qui menait cette idéologie-là.
Okay.
Ensuite, on déménage à Boucherville. Il transforme tout notre sous-sol, encore une fois, dans une salle d'orgie.
D'hédonisme.
Oui. Puis, moi, j'avais la responsabilité de nettoyer après les partout, le lendemain. Nécessairement, il y avait des posters partout, sur les écrans, on pouvait regarder des films porno. Et il y avait des films même de mes parents. Oui, c'est ça, dans leurs différents actes avec autrui qu'ils nous montraient.
Ah, vous les montrez.
Oui.
Vous en étiez fiers.
Oui, oui. Puis ce qui arrivait dans tout ça, parce que là, ça a passé à la prochaine étape avec l'inceste, puis je ne rentrerai pas dans les détails.
Mm-hmm.
Ça a passé à la prochaine étape, surtout quand j'étais au début de l'adolescence avec des relations sexuelles avec des gens de leur groupe. Puis, mais à travers tout cela, mon sentiment, c'était un sentiment de traîtrise.
De tes parents.
De la part de mes parents.
Mm.
Premièrement, quand je les voyais partir, mon père arrivait, il était habillé d'une manière particulière. Il sentait très fort son autre cologne. C'était pas comme ça que mon père était, mais là, je savais qu'il sortait. Et maman s'habillait d'une manière très, très provocatrice. Puis je les voyais tous les deux. Puis dans mon cœur, je me disais non. Non, vous êtes là l'un pour l'autre, pas pour vous en aller. Puis
il y avait
aller.
Quelque chose dans ton cœur d'enfant qui te disait que c'était contre nature.
C'était inné à l'intérieur de moi. J'avais honte
de tes parents.
De les voir. J'étais fâché contre eux. J'avais beaucoup d'amertume qui s'est développée à travers les années. Puis là, je vous mets un autre élément dans tout ça. Parce qu'il y avait aussi une crise existentielle. Mon père m'avait dit, tu vas vivre chez moi, mais tu n'es pas mon fils, à l'âge de 8 ans. Il me dit, il n'y a plus rien entre nous deux. Fait que ça, c'est un élément.
Mais
là,
à 8 ans?
À 8 ans,
mais comment ça, c'était déjà en conflit comme ça? Personnalité?
Ce qui était arrivé, c'est qu'on jouait ensemble. Mon père, c'était un gros gaillard. Puis il était très pesant. Puis là, il m'a accoté dans le sofa, puis il m'a écrasé.
Pour jouer?
Oui. Désolé.
Mais non, c'est bien.
Puis, ce qui s'est produit, c'est que il m'écrasait, puis j'ai dit « Arrête! Je ne suis pas capable de respirer. Arrête! Enlève-toi! Je ne suis pas capable de respirer. » Puis là, il m'a regardé, il dit « Si je m'enlève, c'est la dernière fois qu'on joue ensemble. » Et c'était le cas. Mon père, c'est un homme de conviction, c'est un homme de parole, puis on n'a plus jamais rien fait. Donc, jusqu'à... J'ai quitté chez moi, je pense, j'avais peut-être... une vingtaine d'années, là, on n'a jamais, jamais rien fait ensemble.
Ça a brisé quelque chose dans votre relation.
Oui, 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 ah, c'est certain.
Mais
là.
Il était dans de l'auto-sabotage, clairement, de la relation. C'est lui qui est en train de t'écraser.
Puis on sait que quand une relation comme ça est affectée, ben, l'adolescence est terrible. Ben... Mais en même temps, quand je suis... on a déménagé à Boucherville, puis là, j'étais conscient de ce qui se passait en bas, dans le sous-sol, puis on entendait la musique, puis on entendait ce qui se produisait. Là, ma mère a commencé à me donner du cannabis.
Avec quel âge?
Fumer. J'avais 8 ans.
À 8 ans?
Oui, pour me calmer, puis me donner une sensation plus agréable, malgré le contexte de ce qu'on vivait. Puis, un peu plus tard, quelqu'un d'autre de ma famille m'a offert de l'acide. Non, du hashish, puis après ça, de l'acide.
Dans la gradation, t'es rendu quoi, 10 ans?
Oui, à peu près, puis rendu à 13 ans, j'étais sur la cocaïne. Donc, j'ai passé mon adolescence à me geler, puis la raison, c'est que je pouvais pas rester dans ce contexte-là de ce qu'on vivait, les attouchements, nécessairement les relations, maintenant rendu à 13-14 ans, les relations, puis différentes choses qui arrivaient. Puis... mais à travers tout cela, c'est ça, j'étais comme un toxicomane. Pas majeur, mais assez pour dire que ça me prenait ma dose.
Pour te dissocier.
Oui, puis là, je travaillais pour mon père, il avait un Radio Shack, puis tout l'argent, je le mettais de côté, puis je m'achetais de la drogue, là, puis là, je prenais ça. Quand je suis arrivé au cégep, mais juste avant cela, parce que je pense que c'est important de le dire, à la fin du secondaire, j'ai dit « c'est assez ». Puis j'ai décidé de faire une tentative de suicide. Puis, ce qui s'est produit, c'est que je voyais cela, puis c'est drôle comment ce qu'on pense, hein, mais je voyais ça comme une manière de punir ma famille, punir mes parents, de les faire souffrir. Je me suis dit, quand je vais mourir, bien là, ils vont goûter à cette séparation-là, puis la déchirure va être terrible. Puis je les punissais en faisant ça. Puis mes parents avaient des grosses bouteilles de Valium, puis... D'après ce que j'ai entendu, après la situation, c'était pas légal comme produit.
Okay.
Puis ça, c'était à part le cannabis que ma mère faisait pousser, des autres choses qui étaient véhiculées dans la famille. Fait que j'ai pris cette bouteille-là, puis je l'ai toute gobée.
Aye.
Puis là, je me suis couché J'ai laissé une petite lettre disant « au revoir ».
C'est tout?
Puis, j'ai peut-être dit au revoir à une couple de mes amis, si je ne me trompe pas, okay. là aussi. Là. Puis, mais là, quand ils m'ont trouvé, j'étais encore vivant, puis ils avaient un ami médecin qui est venu me traiter tout de suite, me donner des produits pour me faire régurgiter mm-hmm. le tout. Mais j'ai été dans un coma. Puis là, je ne sais pas si c'est subconscient ou physique, mais j'ai perdu ma mémoire de mon enfance. Je me souviens juste d'éléments ici et là que j'ai vécu. Mmh. Donc, des fois, ma famille me parlait de choses, puis je me disais, je ne me souviens pas de ça. J'ai été des semaines dans le coma, là. Mmh. Puis, ils devaient prendre soin de moi, me faire bouger autant que possible. Mais j'étais déjà rendu à 16-17 ans, je pesais 200 livres, là. Mmh. Donc, ils essayaient de me faire bouger pour faire passer le système avec les médicaments qu'ils me donnaient. J'ai survécu nécessairement.
Attends, mais juste pour comprendre, tu n'étais pas hospitalisé, là.
Non, ils ne voulaient
pas. Ils ne voulaient pas, c'était parce illégal. Que c'était illégal. OK, oui, c'est ça, c'est ça.
Puis, fait qu'il y a des éléments, des fois, je dis des approximations parce que je me souviens pas.
Puis quand tu dis que tu as perdu la mémoire, tu dis il y a comme un point de rupture quand tu es revenu de ce coma-là où là, tes 16 années étaient rendues comme un fromage gruyère ou tu dirais que c'est juste cette période de ta vie que tu as oubliée?
Non, non, c'est vraiment toute l'enfance.
Ton enfance. Puis mais avant ça, tu t'en souvenais? Tu penses? Oui. Tu sais pas?
Oui, je pense bien. Je veux dire, oui, j'étais un enfant problématique. Ouais. J'avais nécessairement été abusé. J'avais eu des relations de l'inceste. J'avais vu de la pornographie. J'avais vu de toutes sortes de choses qui me rendaient confus. Je trouvais ça dégueulasse de voir des gens nus. Puis en plus de ça, de les voir faire avoir des relations. Je comprenais pas. C'est pour ça que quand je t'ai entendu dans la conférence, non pour moi, parce qu'après ça, j'ai connu des familles normales. Là. Mm-hmm. Après ça, même moi, je me suis marié. Ça, c'était une des transformations dans ma vie. Là. Ouais. Je parlerai de ça tout à l'heure. Ouais. Mais d'être prêt à me marier, avoir des enfants, puis vivre une vie normale, c'était briser le cycle.
Ouais.
Le cycle familial terrible que j'avais, qui m'a permis justement d'expérimenter une vie qui est normal, des parents responsables, qui sont fidèles, ça fait 33 ans qu'on est ensemble, on est fidèles l'un envers l'autre, puis d'élever nos enfants avec cette perspective-là qu'on est là. C'est parce que ce qui arrivait avec ma famille, c'est que je ne voyais pas mes parents comme un fondement pour ma vie. Le fondement n'était pas là, tout était chambranlant. Il y avait de la chicane.
Ah, en plus.
Oh, ils se criaient après. Mes deux parents avaient des personnalités fortes, puis ça se criait après. Il y avait de la jalousie. Moi, j'étais jaloux pour eux. Papa ne va pas coucher avec quelqu'un d'autre. Uh-huh. C'est maman qui est là. Ouais, maman ne va pas coucher. J'étais jaloux.
Fait que ça amenait de la jalousie même au sein de leur couple, cette espèce de dynamique de coucher avec tout le monde.
Oui, oui, oui.
Ah
oui,
OK.
Puis finalement, ça a détruit leur couple. Il y a différents facteurs, là, mais ça a détruit leur couple aussi. Là. Mais il n'y avait rien de solide dans ma vie. Fait que c'est pour ça que je voulais me droguer puis oublier. Puis là, quand j'étais adolescent, bien, il y avait des filles qui s'intéressaient à moi.
Mm-hmm.
Mais moi, je n'étais pas intéressé.
Non.
Puis on sortait ensemble, on était dans une gang, tout ça. On sortait, on allait fêter, on s'en allait dans des bars. Même dans l'adolescence, moi, j'étais avec des plus vieux. Puis j'avais aucun problème à rentrer dans les brasseries, les bars, les clubs, puis ainsi de suite. Fait qu'on sortait, puis moi, c'était toujours là, de me rendre... Je buvais beaucoup, je prenais de la drogue,
point d'ivresse.
Ça, là, puis d'oublier le tout, là.
OK.
Puis, mais... des fois, je perds ma pensée, pourquoi j'ai mentionné. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais quelqu'un qui était dévergondé, j'étais quelqu'un... Mais des blondes me laissaient? Ben, les blondes qui m'accompagnaient.
Les filles t'intéressaient pas.
Mais ça m'intéressait pas. Puis en passant, les gars m'intéressaient pas non plus. Là. Je sens encore qu'on arrive
mais comment t'expliques que t'étais pas... Si t'étais stimulé constamment dans ta sexualité, pourquoi t'étais pas intéressé par les filles de ton âge? Tu peux-tu l'expliquer?
Disons que ça, c'est un élément que je me souviens pas. Ça a été la partie la plus intense de ma consommation. Après ça, je suis allé au cégep du Vieux-Montréal. C'était le seul qui acceptait de m'avoir, parce que même au secondaire, j'aurais jamais passé le secondaire si ce n'était de la généralisation qui était pratiquée dans les années 80. On prenait les notes de tout le monde puis on les levait pour s'assurer qu'il y ait le moins d'échecs possible.
Okay.
Fait que là, j'avais des notes là, dans les 60, là, c'était très bas, puis il n'y avait aucun cégep qui voulait me prendre, mais cégep du Vieux-Montréal, oui, mais j'avais le cerveau tellement brûlé. Là, on me dit, il faut que tu lises ce livre-là pour ce cours-là. « Faut que tu lises ce livre-là pour ce cours-là. » Lire un livre, je n'avais jamais lu un livre. Fait que là, j'essayais de me concentrer. Je n'étais pas capable de lire un article de journal. Comme j'ai dit, là, je n'étais pas capable de me concentrer puis comprendre.
C'était la concentration,
ce que...
le problème.
Fait que là, la concentration, mais avec les drogues, le cerveau, littéralement, là, j'étais comme une locumène. Je n'étais pas en forme, je n'étais pas intellectuel du tout, puis ainsi de suite.
Je comprends.
Puis, à travers tout cela, ben, la première année, j'ai coulé tous mes cours. Puis là,
Au
ils m'ont mis
cégep.
en probation. Puis on dit, là, tu vas faire tes 2 prochaines années, mais il ne faut pas que tu coules un autre cours. Puis effectivement, je n'ai pas complété le cégep. Finalement, j'ai arrêté juste avant ma dernière session. Mais le restant, je me suis plus forcé pour lire et essayer de comprendre. Mais c'était très
Mais
pénible.
Mais tu étais encore
pour moi.
drogué, fait que ça devait être un peu
Oui,
compliqué,
c'est
là.
ça.
Ouais.
J'avais diminué. Il y
OK.
avait différents contextes. J'avais essayé un petit peu le nouvel âge. Je faisais de la méditation transcendantale pour essayer de compenser à mes besoins. Je suis même allé aux Philippines pour rentrer dans un groupe de guérisseurs. Puis tout a tombé à l'eau. Ça n'a pas fonctionné.
Mais tu cherchais quand même des outils pour t'en sortir,
Oui,
là. Il y
oui,
avait
oui,
une voix à l'intérieur de
oui.
toi qui criait.
Mais j'étais athée, comme mes parents. Mais je n'étais pas athée dans le sens complet du terme, où on ne croit pas à rien d'autre que le matériel, où on peut
Ouais,
croire finalement
matérialiste, là.
aux esprits, aux guides spirituels.
Ouais.
Puis ainsi de suite. Aux Philippines, c'était un groupe comme ça, là, où
OK.
je suis allé, puis finalement, ça n'a pas fonctionné.
OK.
Mais c'est juste pour mentionner que rendu au cégep, j'avais tous les effets de ces années de consommation puis de ces abus-là. Mais encore, j'étais malheureux. Je peux décrire ma jeunesse comme étant malheureux.
De 0 à 20 ans.
Autant que je me souviens un petit peu à Anjou, je me souviens du sous-sol ici, je me souviens d'un voisin qu'à un moment donné, on habitait dans un quartier. Je sais que je déborde là. Un
C'est correct.
quartier italien, puis il y avait un voisin qui avait pris, mon père avait acheté une belle voiture Oldsmobile blanche, puis il avait pris une canette, un petit garçon, une canette de peinture noire, puis il avait tout
Ah
peinturé.
non,
Fait que
ça te rappelle.
je me souviens de choses comme ça.
Ouais, je
Mais
comprends.
à
C'est
part
comme des
ça.
parcelles ici et là. Mais tu sais, pour expliquer comment ça fonctionne pour les gens qui écoutent aussi, un enfant souvent va occulter l'abus parce que c'est trop à vivre pour lui, puis ça crée une dissociation. La dissociation, en fait, c'est comme un peu si ton subconscient prend le dessus, tu vas fonctionner, tu vas vivre ta situation, mais tout de suite après, tu l'oublies. Puis c'est très, très général. Ça, c'est très commun qu'un enfant oublie les abus sexuels. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dénonciation, d'ailleurs, de dévoilement qui est fait, parce que beaucoup des enfants vont s'en souvenir dans l'âge adulte. Donc, tu sais, juste expliquer pour ceux qui écoutent, tu sais, des fois, les gens font, ben, il a oublié, fait que c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Ou, tu sais, en cours, c'est beaucoup utilisé contre les victimes, d'ailleurs. Mais c'est au contraire, c'est comme la preuve que il y a vraiment eu une dissociation, donc il y a eu un traumatisme pendant ton enfance, puis le tien a été répété. Avant qu'on tombe dans ton jeune âge adulte, j'aimerais ça quand même essayer de comprendre. Moi, je veux savoir. Je veux comprendre comment ça fonctionne dans la tête de tes parents. Je sais que tu peux pas parler à leur place, mais est-ce qu'ils voient ta détresse? Est-ce qu'ils voient que tu es malheureux là-dedans ou tu penses qu'il n'y avait pas la capacité de le voir?
Mais disons que mes parents, comme j'ai dit, étaient très progressifs dans leur perspective.
Ouais.
Puis pour eux, venant de l'époque de la Révolution tranquille, une des solutions, c'était pas d'être médicamenté, c'était de prendre de la drogue. Mon père, à ma connaissance, n'a jamais pris de la drogue, mais ma
OK.
mère était vraiment quelqu'un, c'était une dame qui écoutait de la musique rock, de Pink Floyd, puis ainsi de suite, là. Toute la musique psychédélique, puis moi aussi d'ailleurs, là.
C'est de la bonne musique.
Non, non, mais je ne dis
Mais
pas,
non, je
mais
comprends ce
je
que tu veux
parle
dire.
dans
On voit le
le
topo.
désir d'expérimenter là, des choses, là, t'sais, avec toutes les lumières
Ouais.
psychédéliques, puis ainsi de suite.
Ouais.
Je pense qu'elle voyait que j'étais malheureux,
Ouais.
elle voyait que j'étais triste. Puis
Elle était pas outillée pour t'aider.
une des solutions, c'était de m'offrir de la drogue, comme je le disais à
Ouais.
8 ans. Puis après ça, d'autres mondes, je ne dirais pas les noms, m'ont offert des drogues plus fortes. Puis il n'y avait aucune résistance dans la famille contre ça. Mon père, c'était un gros buveur, puis
OK.
ma mère se
Fait que
droguait.
t'avais pas à te cacher pour consommer,
Non, non,
forcément.
non, non, pas du tout,
Il
pas du
savait,
tout.
là, que tu
Ben
consommais.
oui, ben oui. Puis d'ailleurs, mon père a toujours dit, j'aimerais ça que quand tu vas avoir des blondes, que tu viennes à la maison,
Eh boy, ça devait pas te tenter.
puis que tu aies tes relations à la maison. Fait que
Quand même pas
non.
avec eux, là, ton pas proposé.
Je pense pas que ça allait les inclure, mais quand même, non. Effectivement, ça m'intéresse.
Non, je peux imaginer.
Fait que oui, je pense que ma mère a essayé de compenser au fait que mon père ne faisait rien avec moi. Elle me disait, viens, on va aller faire du vélo. L'hiver, on faisait du ski de fond ensemble, on jouait au tennis, différentes choses. Fait qu'elle, elle essayait de mieux possible, mais elle était à Tétroville, à Montréal, pour au cégep, à Édouard Monti, la polyvalente Édouard Monti. Puis elle était connue à l'école comme la professeure qui était cool.
Ah ben oui, c'est sûr.
Parce que quand elle enseignait, elle donnait des cours d'anglais et elle amenait toujours de la musique de Pink Floyd puis des différents groupes comme ça pour qu'ils regardent là, les paroles puis qu'ils apprennent à travers ça. Ben puis oui. Là, ils faisaient jouer ça dans la classe pendant qu'ils lisaient les paroles puis ça. Mm-hmm. Puis nécessairement, elle ne se cachait pas là, que c'était une femme de l'époque. Là. Mm-hmm. Puis elle était bien vue comme ça. Mais je pense que dans ce qu'elle a voulu faire, parce que là, je l'ai connue après, je veux dire ce qui s'est produit avec nous un peu plus tard, là. Mm-hmm. Mais dans ce qu'elle a voulu faire, elle a fait le mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait. Là.
Mm-hmm. Exactement. Puis elle aussi, elle avait été grandement affectée par son enfance, comme tu disais tantôt. Fait que c'est la... C'est comme tu... On va en revenir là, au fait que tu as brisé le cycle, c'est très important. T'sais, c'est transgénérationnel, souvent l'abus sexuel. Fait que c'est... si quelqu'un, comme la violence, là, si tu t'es fait battre par ton père, des chances que tu battes ton enfant, jusqu'à ce qu'il y ait la conscience, puis qu'on choisisse vraiment consciemment de briser le cycle. Fait, j'aimerais ça savoir comment tu as fait pour t'outiller, pour te sortir de ça. Bon, ton voyage aux Philippines n'a pas fonctionné, mais il y a sûrement eu quelque chose qui est arrivé.
Mais c'est certain que mon voyage dans l'occultisme, si je le dis comme ça, parce que ça s'est rendu jusqu'au spiritisme et différentes choses, ça ne m'a pas amené de satisfaction. Je faisais à chaque jour la méditation transcendantale pendant au moins une demi-heure par jour. Ça calmait mon corps, ça me donnait une relaxation. On apprenait à mieux respirer. Puis c'était tous des éléments qui enlevaient un peu mon stress. Mais ça n'a jamais rien réglé. Puis finalement, après ce voyage-là aux Philippines, moi, j'avais rencontré...
Tu l'as fait, le voyage aux Philippines?
Oui, oui, mais ça a tombé à l'eau là-bas pendant que j'étais là-bas. Premièrement, le groupe principal, c'était une médecin française qui avait écrit 3 livres sur les expériences qu'elle avait vécues dans ce groupe-là, puis les miracles qu'elle avait vus, les guérisons. C'était toutes des choses de guérison du cancer, puis ainsi de suite.
Okay.
Donc là, moi, je me suis dit, bien, je veux guérir mon âme, puis j'aimerais ça aussi expérimenter cela, puis peut-être avoir cette capacité-là. Je connais pas ça au Québec, des guérisseurs comme ça. Je revenais. C'était très égocentrique. J'étais une personne...
Ben, tu cherchais la guérison en même temps.
Oui. Mais aussi, je me disais, je vais devenir une personne là, célèbre, là, puis les gens vont me rechercher. Puis... Oh, ben oui, ça, c'est certain. Normal. C'est un effet du rejet que j'ai vécu. Là. Mais... là, je suis allé là-bas, ça a tombé à l'eau. Puis juste avant de partir, j'ai rencontré une famille. C'était un couple qui avait un magasin, une boulangerie, puis des produits naturels, qui habitait à Boucherville. Puis ils avaient 6 enfants. Puis une très belle famille. Moi, quand je suis rentré là, parce que j'étais un peu plus dans les produits naturels, puis j'ai vu cette famille-là, ça m'a charmé. Mmh. Parce que les adolescents qui travaillaient étaient en harmonie avec les parents. Mmh. Moi, j'en voyais promener mes parents. Là, j'étais fâché contre eux. Ça sortait dans mes attitudes, puis dans mon mépris qu'ils vivaient avec moi. Puis là, je voyais ça, c'était en harmonie. Ça travaillait ensemble dans le magasin. Le couple était gentil. Les enfants étaient gentils. Là, je me disais, OK, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui est différent? Fait que finalement, ben là, j'ai remarqué qu'il y avait des paysages sur les murs avec des écrits en dessous. Puis là, je lisais un petit peu les écrits. Finalement, il me dit c'est des versets de la Bible. Puis il y avait un présentoir avec des pliants là, de l'Évangile, bien sûr. Fait que là, il dit, ben écoute, toi, t'es-tu une personne religieuse? T'es-tu intéressé à la foi? Je ne sais pas du tout. Moi, tout ce qui était... l'establishment, tout ce qui était la structure sociale, incluant l'Église, j'avais rejeté ça parce que pour moi, c'était la société qui avait permis à des parents comme ça de m'abuser. Mm-hmm. J'étais totalement contre la religion, totalement contre l'Église, contre tout, finalement. Je disais, oh non, ça ne m'intéresse pas. Fait que pendant quelques mois, j'allais acheter mon pain et différentes choses. Ils étaient tellement gentils. Ils me disaient, oh, si jamais ça te tente, viens faire un tour. C'est libre à tous. C'est...
À l'église.
À l'église. Fait que là, moi, je suis allé aux Philippines. Tout a tombé à l'eau. J'ai pris les économies que j'avais. J'ai tout dépensé là-bas. Je n'ai pas fini mon dernier semestre au cégep. Mm. Fait que là, il fallait que j'attende au prochain semestre. J'avais quitté mon emploi. Je travaillais dans la construction de piscine. J'avais quitté mon emploi. Puis j'avais envoyé promener ma famille et mes amis. je suis revenu.
T'avais complètement coupé les ponts avec
moi, j'avais un billet ouvert d'une année. Okay. On pouvait avoir ça à cette époque-là. Je ne sais pas si ça existe encore.
Je pense que ça existe encore, ça va coûter cher en titi.
Mais un billet ouvert, puis je m'étais dit, je ne reviendrai pas. Ou si je reviens, je vais être une autre personne, en tout cas. Et là, je suis revenu, puis j'étais bredouillé. J'avais plus rien. J'étais allé voir quelques gens de ma famille, tout ça, mais les relations. Mon père habitait dans les Caraïbes, ma mère était en Europe. Ils s'étaient séparés, puis ils étaient partis dans d'autres pays, puis au moins pendant un certain temps.
Mm-hmm.
Fait que là, je suis allé voir cette famille-là, puis j'ai dit, je ne sais pas quoi faire.
La fameuse famille de boulangerie.
Oui, c'est ça. Puis il dit, ben écoute, on a un appartement au-dessus de notre boulangerie, on va te donner un bon prix si tu veux vivre là. Ça va te donner au moins une place à vivre, parce que là, j'avais plus rien, là.
Ouais.
Fait que là, j'ai dit, OK, oui, je vais me trouver un emploi. J'ai commencé à travailler pour Rona. Fait que là, je suis allé habiter là. Puis là, ils m'ont offert encore, si jamais ça te tente d'aller à l'église. J'ai dit, ben, j'ai plus rien, là. Je pense que je vais essayer. Fait que je suis allé à l'église, une église baptiste évangélique à Drummondville. À Drummondville, je suis à Drummondville maintenant, à Boucherville. Puis finalement, quand je suis arrivé là-bas, bien, il y avait 160 personnes. Tout le monde, moi au cégep, on avait dit, quand tu rentres dans une secte, les gens vont tous venir te voir. Puis « Bonjour, jeune homme, on est tellement content de te voir. » Fait que c'est exactement ça que j'ai vécu. Tout le monde, « Hey, salut, ça va bien? » Puis « Content de te voir. » Moi, j'avais des cheveux longs, j'avais de l'embonpoint. J'étais, comme j'ai dit, une loque humaine. Puis, fait que là, je suis resté dans la réunion. Ils chantaient des cantiques. Ils étaient joyeux, ils souriaient. Je me disais, « Gang d'hypocrites. » Ça n'a pas d'allure.
Pourquoi hypocrite?
Parce que je pensais pas que c'était possible d'être heureux.
OK,
je pensais
pas que tu fakais?
Ben oui, c'est une secte. Okay. J'avais juste hâte de sortir. Oh, ouais. Là, le gourou, ben, je les appelais comme ça, dans le Nouvel Âge, est sorti, il a ouvert un gros livre noir, il a enseigné quelque chose, j'ai rien compris. Mais comme dans le Nouvel Âge, on allait rendre notre vénération à l'image du fondateur en amenant des fleurs ou peut-être des fruits, bien sûr. Je suis allé le voir, puis j'ai dit, ben merci pour ce que vous avez dit. J'ai pas compris, mais merci. Il dit, ton nom, c'est quoi? Il dit, c'est Jean. Il dit, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? J'ai dit, OK. Il dit, viens à mon bureau d'affaires. Là, je suis allé à son bureau d'affaires, puis c'était un pasteur de l'Assemblée. Il a ouvert la Bible, il m'a montré l'amour de Christ, comment est-ce que Jésus cognait à la porte de mon cœur, puis me demandait de le laisser rentrer. Il dit, défoncera pas la porte, mais il est mort pour toi, puis il est mort pour te donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Il dit, ça s'appelle une nouvelle naissance. Dans le Nouvel Âge, on parlait toujours de ça, naître de nouveau.
Ouais.
Mais là, ça n'avait jamais rien fait. Là.
Mm-hmm.
Fait que c'est une nouvelle naissance. Mais il dit, il faut que tu sois prêt à croire dans ce qu'il a fait pour toi, croire dans son amour, puis l'inviter dans ta vie. Fait que je dis, comment est-ce qu'on fait ça?
C'est mais cool. Ça te parlait à ce moment-là?
Ah,
tu n'étais pas braqué contre ce langage-là? Parce que
mais c'est frappant que là, le voyage aux Philippines, ça m'a comme écrasé, là.
J'ai un secret à vous confier, il faut que je vous parle de ça ici. Ça s'appelle le bracelet de performance CM2 et c'est des ondes électromagnétiques pulsées. Je l'ai essayé en étant un peu sceptique au début, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Quand on l'achète, on a 30 jours pour l'essayer. Si on n'est pas satisfait, on nous rembourse. Donc moi, ça m'a convaincue de l'essayer. La raison pour laquelle j'avais envie de l'essayer, c'est parce que j'étais fatiguée, une fatigue lourde. Je suis beaucoup sur mon ordinateur, puis je finis par être un peu comme dans le brouillard, brain fogged. Et ça m'a vraiment aidée dans mon énergie. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet une meilleure circulation du sang et ça va désagglomérer les globules rouges, favoriser l'élimination des toxines. Pour les gens qui ont des problèmes inflammatoires, de douleurs chroniques aussi, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai été convaincue de vous en parler. C'est le jour où ma mère l'a essayé. Ma mère est venue ici, elle était coincée dans le dos, puis elle me disait « je ne sais pas comment je vais y arriver ». Elle venait pour m'aider avec les enfants, puis elle dit « je ne suis pas capable de me pencher ». Puis je lui disais « ah ben essaie ça, il paraît que ça aide pour les douleurs ». 10 minutes après, elle m'a dit « Hello, j'en reviens pas, j'ai plus mal ». Mais calme-toi, maman, ça doit être l'effet placebo ». Elle l'a gardé toute la journée, tout le lendemain, et c'était terminé. Elle avait presque plus aucune douleur, alors qu'elle était complètement paralysée. Et ben finalement, vous comprendrez qu'elle en a un maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Alors, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Ça vaut la peine, du moins, si vous êtes quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier. J'avais envie de vous partager ce grand secret, cette grande révélation dans ma vie, ces ondes électromagnétiques pulsées. Alors, ça s'appelle le bracelet de performance, et vous pouvez le trouver dans ma boutique sur mon site helloveutsavoir.com.
Personnellement, là, j'avais plus de repères, j'avais plus rien.
Mm-hmm.
Puis là, en entendant cela, c'était comme ça me disait, parce que là, il décrivait c'est quoi le problème avec l'être humain, d'après ce que Jésus-Christ nous révèle, d'après ce que la Bible dit, tu sais, tout ce qu'il disait, là, l'immoralité. J'avais vécu ça. Le manque de respect pour les parents, la désobéissance sociale, la rébellion personnelle. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Là. Mm-hmm. Je sais que c'était une réaction en grande partie, mais je me voyais dans ça. Mm-hmm. Puis là, il a dit, mais là, tu peux demander. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je devienne membre de votre groupe, quoi que ce soit. Il dit, pas du tout, c'est pas notre groupe qui est important. C'est une relation personnelle. Puis il dit, tu peux inviter Jésus à venir dans ta vie. Mm-hmm. Puis il nous dit, quiconque le reçoit, qu'il va leur donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Je dis, OK, je suis prêt à le faire. Je dis, comment est-ce qu'on fait ça? Mais il dit, regarde, je vais faire comme si j'étais toi. Puis là, je vais demander, Jésus, je comprends ce que tu as fait pour moi. Je comprends que tu m'aimes, que tu es mort sur la croix, puis que tu veux venir dans ma vie, puis être mon sauveur personnel. Je t'invite à venir, puis à me donner cette vie-là. Fait que là, alors qu'il disait une phrase, je répétais la phrase. Il dit, parle-moi pas, parle à Jésus. Puis à la fin, j'ai dit, amen. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, oh, il y a quelque chose que j'ai recherché quand j'allais voir des voyants, que j'ai recherché quand je faisais les rencontres avec des guides spirituels, toutes sortes de spiritisme, puis toutes sortes de choses que je voulais avoir une expérience interne, parce qu'à l'externe, mon père m'avait dit, la vie, c'est de travailler, gagner son pain, puis s'amuser, puis c'est juste le matériel qui est important.
Mm-hmm.
Et là, j'ai dit, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait qu'il a dit, mais la Bible nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, qui est rentré dans cette relation-là, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, la Bible dit que tu es maintenant sauvé, converti, puis ainsi de suite, puis que Dieu maintenant vit en toi, puis il va t'accompagner dans ta vie. Là, je suis parti, puis je marchais, puis je m'en allais, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, j'avais des doutes, là,
mm-hmm.
parce que toute ma programmation au secondaire, au cégep, les choses que j'avais entendues venaient me dire, hey, tu viens d'embarquer dans une secte. Là, j'appelle des amis, puis je leur partage mon expérience, et on dit, retourne pas là. Retourne pas. Mais après ça, j'en parle, j'envoie à mon père aux Philippines une lettre expliquant ce que je venais de faire. Puis il envoie une lettre à ma sœur, pas à moi, à ma sœur en disant ton frère, il est rendu fou. Là, je pense que la drogue, ça l'a fait déconnecter de la réalité. Ma sœur était contre moi. Ma mère est revenue de l'Europe. Elle était contre moi aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite là, j'avais un désir de remettre ma vie en règle. De restructurer ma vie. C'était comme un nouveau commencement.
Dirais-tu que ton désir était quand même là avant?
Oui, parce que j'essayais de m'aider, j'essayais de transformer par les différentes choses. J'ai pris des cours d'extra au cégep en psychologie, j'essayais de me comprendre en philosophie, j'analysais tout ce que les philosophes disaient, puis j'essayais de comprendre. Donc oui, certainement. Mais ce que je peux dire, puis là, ça fait 38 ans de cela, ce que je peux dire, c'est que cette expérience-là est devenue le fondement d'une relation avec Dieu, mais d'une relation aussi avec les autres. Tout de suite, j'ai commencé à vouloir avoir des contacts avec ma famille, à vouloir leur rendre ce qu'ils ne m'avaient pas donné. Moi, j'ai reçu du mal, bien souvent, de ma famille. Mais là, j'ai dit, moi, je veux faire du bien. Surmonter le mal que j'ai vécu par le bien. J'ai tout de suite pensé, j'aimerais ça être un mari. Mais j'aimerais ça être un homme responsable qui va travailler fort, qui va prendre soin de sa femme puis d'avoir des enfants.
T'as quel âge?
Jamais. 21.
C'est tout 21. Jeune quand même pour vouloir être un mari.
Oui. Puis ça s'est fait à 26 ans. Là. Puis comme j'ai dit, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Puis on a 3 enfants qui sont des adultes. Puis ça. Mais les gens vont dire c'est très subjectif ce que j'ai décrit. Mais il y a une base objective. Un de mes doctorats, c'est en apologétique.
Tu as 2 doctorats.
2 doctorats. Puis l'apologétique, c'est la défense de la foi chrétienne. C'est de pouvoir analyser les critiques, analyser les attaques. Puis une des attaques principales, c'est que c'est une tromperie psychologique, l'expérience qui amène une personne à croire qu'il est converti, puis ainsi de suite.
OK.
Puis moi, je dirais que ce que je vis depuis 38 ans, c'est tellement profond à l'intérieur, que je ne peux pas voir ça juste comme une manipulation psychologique. Mm-hmm. Puis aussi, c'est basé sur quelque chose d'objectif, sur le fait que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, puis qu'il invite dans les Écritures les gens à se tourner vers lui. Et il dit, je veux venir en vous. Il dit, je cogne à la porte, je ne cognerai pas Satan, je cogne à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, puis je serai en relation avec lui. C'est exactement ça que je lui ai demandé. Je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas la Bible, je n'étais jamais allé à l'église.
Mm-hmm.
À messe de minuit, peut-être avec mon grand-père, quand j'étais tout petit. Peut-être 2 ou 3 fois quand on allait visiter mon grand-père.
C'est très étranger quand même.
Totalement, totalement. Puis là, ça l'a, ça l'a restructuré ma vie comme une vie de bénévolence, une vie où je voulais me donner pour prendre soin des autres. Finalement, ça a pris 5 ans, mais je me suis finalement marié avec une jeune dame de 10, elle avait 19 ans, qu'elle a connu Christ, elle aussi, mais une jeune chrétienne. On a parti une famille, puis ainsi de suite. Puis, mais le cycle a totalement été brisé. Moi, j'ai été violencé de différentes manières, incluant par mon père physiquement. Mon père ne se gênait pas de me frapper. Là. Encore une fois, je ne me souviens pas des détails. C'est surtout ma mère qui m'a partagé ça. C'est parce que ma mère, 2 ans après cette conversion-là, je l'invitais. Je disais, hey, écoute, j'ai vécu de quoi, là, puis je t'invite à venir à l'église. T'es libre, là. Mais si jamais tu as un intérêt à ouvrir ton cœur à Jésus, là, je t'encourage à le faire. Fait qu'elle est venue après 2 ans. Okay. Puis finalement, elle aussi, elle a accepté le Seigneur. Puis là, elle s'est ouverte. Puis elle me dit, ton père... Elle dit, c'est moi qui l'ai divorcé. Elle dit, je vais essayer de me rétablir avec lui puis de me remarier. Parce que, elle dit, je l'aime encore. Mais elle dit, on se chicanait tellement, puis il me manipulait ses livres sur son chevet de son lit. Là, ses livres, c'était tout comment hypnotiser puis manipuler les gens.
Aïe, aïe.
Il aimait ça. Puis elle croit que c'est ce qui lui a fait. Maintenant, je ne veux pas trop mettre le blâme sur mon père, mais que finalement, il l'a convaincu par la manipulation qu'il devait avoir ce genre d'éducation pour leurs enfants. Donc, leur permettre de goûter là, à ces choses-là dans la tendre enfance, puis tout à travers. Son but, c'était qu'on soit épanoui sexuellement. C'est pour ça que quand je t'entendais dire, « Ah, les experts nous disent, c'est pas une bonne chose. » Je disais, « C'est vrai, je n'étais pas épanoui. »
Mais non.
Je trouvais ça dégueulasse dans mon enfance. L'adolescence, j'étais un peu plus curieux.
Oui, parce que tu as les hormones qui embarquent.
Mais en même temps, j'étais tellement dans la rébellion. Puis c'est de l'anarchie. Moi, j'aurais détruit. Là, je serais rentré dans un groupe, j'aurais détruit des choses. Je m'en allais vers des choses très graves. Moi, je suis conscient là, qu'il fallait que quelque chose se passe.
Ouais.
Je suis allé un peu dans le nouvel ange, puis ainsi de suite.
Tu cherchais quand même des pistes de solution. Oui, moi, je trouve ça quand même admirable, parce que c'est comme si, au fond de toi, tu avais une résilience. C'est ce que j'admire dans les survivants, tu sais, les victimes d'actes terribles dans l'enfance. Et cette résilience-là, tu sais, comme que j'ai vue chez Anneke Lucas aussi, que j'ai reçue, une femme magnifique, un sourire extraordinaire. Elle parle de ce qu'elle a vécu avec... mais il n'y a pas d'autre mot que la résilience. Puis tu l'as en toi, puis j'entends que... En fait, ce que j'entends, c'est que ça a toujours été en toi. Tu étais un enfant qui avait déjà cette espèce de curiosité. Tu as fait 2 doctorats quand même.
Mais tout ça, c'est venu après.
Mon éducation, mais c'est en toi.
C'est après. Mais comme j'ai dit, je ne lisais pas. Puis ça ne m'intéressait pas.
Fait que tu penses qu'il y a vraiment comme deux...
Oui, mais après ma conversion, je suis devenu affamé, autodidacte. Je dévorais les livres.
Ah ouais.
Là, mon cerveau, rapidement, parce que c'est un muscle, hein, mon cerveau, rapidement, a été en mesure de comprendre. Puis là, j'ai fait un bac, 2 maîtrises, 2 doctorats, et ça.
C'était pas difficile pour toi, rendu là, de lire?
Non.
Tu avais arrêté la drogue aussi,
j'imagine? Oui, j'ai pas consommé depuis ma conversion, depuis 38 ans. J'ai pas bu non plus, moi, personnellement. J'ai décidé que j'étais tellement content d'avoir un cerveau, là, que je me suis dit, je veux pas consommer rien qui va affecter ça. Je prends pas de médicaments antidépressifs. Je touche pas à rien de ces choses-là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis j'ai eu l'occasion à quelques reprises de parler dans des groupes, des refuges pour toxicomanes chrétiens, puis qui disaient, écoute, viens nous partager ça, parce que ça ne veut pas dire parce qu'une personne connaît Christ qu'il est totalement libéré de ces choses-là. Puis il dit, viens donc nous expliquer comment, dans ta marche avec Christ, ta discipline personnelle, comment est-ce que tu as été libéré. Puis je peux te dire, je n'ai jamais été tenté de retourner vers la drogue. Jamais été tenté.
Tu dirais que c'est à cause de Jésus. Grâce à Jésus.
Moi, c'est cette expérience, la conversion que je vois comme. Parce qu'avant ça, j'avais ralenti, mais je consommais encore. Parce que ça faisait partie une des étapes dans ma semaine où je pouvais là, déconnecter encore de mes douleurs. J'étais mal. À l'intérieur, je souffrais. Je ne l'aurais pas avoué. Là. J'étais un homme dur, j'étais dans les arts martiaux. Ça, c'était une période plus tôt. Dans l'adolescence, je suis rentré dans les arts martiaux. Puis, encore une fois, là, j'étais violent. Puis, j'étais fâché contre tout le monde. Puis, si je pouvais avoir les outils pour me venger, bien, j'étais prêt à le faire. Mon père, c'était une deuxième dan dans la ceinture noire.
C'est ça que tu avais étouffé à 8 ans. Il savait ce qu'il faisait.
Disons que je ne peux pas dire c'était quoi ses motivations. Je n'ai jamais compris ça.
Non,
puis, je me suis toujours senti coupable. J'aurais-tu laissé m'étouffer, là, puis au moins mon père aurait resté, là.
Tu t'es dit ça?
Dans cette relation, j'étais coupable pour tout, là. Dans l'inceste, j'étais coupable, dans les abus sexuels, toutes sortes de choses que j'ai vécues. Pour moi, j'étais la personne coupable, mais j'étais fâché contre mes parents de me mettre dans ce contexte-là.
Bien sûr, c'est comme plus fort.
C'est de la confusion.
C'est ça, exactement.
On est malheureux, on est confus, on ne comprend pas le monde des adultes. Laisser les enfants, être des enfants, j'étais 100% d'accord avec ça.
Oui, Victor Hugo avait compris. C'est drôle, cette espèce de nouvelle idéologie qu'il faut exposer les enfants à des concepts totalement adultes. T'sais, c'est pas nécessaire du tout. Puis en fait, c'est que ça va créer un malaise immense, voire un traumatisme chez l'enfant qui est exposé à des choses qui n'appartiennent pas à son monde.
Oui.
Puis, en fait, ce qu'Ariane Bilorand dit, qui est la psychologue que j'ai reçue pour parler de ça, laissez les enfants poser leurs questions, puis suivez-les dans leur évolution, dans leur questionnement. Les questions vont venir d'elles-mêmes, là. Si il ne te l'a pas posé. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un petit peu d'encadrement puis d'éducation, leur expliquer l'anatomie, ces choses-là, mais ça vient d'eux. Puis ils vont s'éveiller à ces choses-là, puis c'est correct de les accompagner, mais tu sais, on ne va pas commencer à expliquer un viol à un enfant de 4 ans, ça n'a pas rapport. C'est comme expliquer le chômage à un enfant. Un enfant, il ne comprend pas, c'est même travailler, c'est pas c'est quoi. Tu sais, c'est des concepts adultes. Fait qu'on peut-tu laisser ça hors de leur vie, les laisser jouer? Ils sont tellement dans leur moment présent, ils sont tellement dans la joie. Je veux dire, c'est une inspiration, on devrait essayer juste de faire comme eux, à la place de leur mettre des problèmes dans la tête qui n'ont pas lieu d'être. Écoute, j'ai plein de questions à te poser. J'essaie toujours d'être dans une position où je ne veux pas faire l'avocat du diable. Excusez le jeu de mots, là. Mais tu sais, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui se braquent quand ils entendent le mot Jésus.
Oui,
c'est
oui,
ça le
oui,
Québec.
Oui.
Puis tu dois le savoir plus que quiconque, parce que tu es au quotidien là-dedans. Moi, tu sais, c'est sûr, j'ai dénoncé beaucoup le satanisme, mais dans une position où je me considère pas... c'est pas vrai,
plus
je crois
social,
en Dieu, mais j'ai ça...
plus
Oui, social,
social.
exactement. C'est social, comment je le fais. C'est pas comme d'un angle religieux. Mais j'en parle souvent, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui me suivent, beaucoup de catholiques. Là, j'aimerais ça, premièrement, qu'on démêle tout ça. Là. Chrétien, catholique, baptiste, évangélique, c'est quoi qui se passe? Pourquoi il y a autant de chapeaux? Et peux-tu nous démêler
Oui,
un
oui.
peu?
Mais disons que pas l'Église traditionnelle, l'Église primitive qu'on appelle l'Église du premier siècle, ça avait certaines valeurs, certaines croyances qui ont été mises par écrit dans le Nouveau Testament. Donc, les Juifs utilisaient l'Ancien Testament, c'est surtout leur peuple qui est décrit dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ce sont les écrits des apôtres qui étaient dans l'Église primitive qui ont expliqué c'était quoi la foi. Puis après les apôtres, bien, il y a tout de suite eu beaucoup de gens qui ont commencé à écrire d'autres choses. On les appelle les pères de l'Église. Donc, c'était des évêques, c'était des docteurs de la loi, puis ainsi de suite, qui ont commencé à communiquer par des lettres ouvertes qu'on appelle des épîtres. Puis pendant 400 ans, il y a une période qu'on appelle la période de la tradition, pendant laquelle ces épîtres-là ont été conservées puis copiées, puis vues comme étant des bonnes illustrations de la foi dans les siècles après l'Église primitive, après l'Église des apôtres. Et ces écrits-là, on les a encore aujourd'hui, pas tous, mais beaucoup de
Ils
ces
sont au
écrits-là.
Vatican.
Ils sont un peu partout.
OK.
Mais oui, le Vatican en a
Ouais.
plusieurs, des gens comme Ignace d'Antioche, des gens comme Augustin, toutes sortes de croyants, là. Puis, dans l'histoire, il y a eu de l'abus dans ce qu'on appelle le christianisme ou la chrétienté. Donc, il y a eu des dirigeants, on va les appeler les papes parce que c'est le terme, surtout pendant le Moyen Âge, qui sont devenus très autoritaires, se présentant comme les vicaires de Christ, puis l'autorité suprême sur les croyants, donc parlant ex cathedra. Qu'est-ce que ça veut dire ex cathedra? Ça veut dire dans la chair ou l'autorité de Saint-Pierre, le premier pape, d'après leur croyance. Mais là, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'extrêmes, la construction voyons comment est-ce qu'on l'appelle, de Saint-Pierre
Saint-Pierre
de
de Rome.
Rome. Oui, j'essaie de me souvenir le nom de la bâtisse, mais toutes ces choses-là, les gens étaient presque forcés à investir leur argent, à aller travailler souvent bénévolement. Il y en a qui ont perdu leur vie, il y a des personnes qui ont tout donné, tout sacrifié pour ça. Mais c'était très, très poussé par le système. un peu plus tard, au 16e siècle, il y a des moines puis des prêtres qui ont décidé c'est assez ces abus-là. Ils ont dit, on va se tourner vers le Nouveau Testament, puis on va regarder la simplicité de la foi. Mm. Puis eux ont été connus comme les protestants ou les réformateurs. Oui, c'est ça. Ben, au début, non. Ils voulaient juste être des réformateurs de l'Église pour faire un genre de réveil interne. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance, des gens comme Martin Luther, des gens comme Calvin, Jean Calvin, puis ça. Donc, au 16e siècle, il y a eu beaucoup de résistance des chefs de l'Église catholique, puis finalement des mandats d'arrêt. Puis, fait que ces gens-là sont venus qu'à développer leur propre mouvement, qu'on appelle le mouvement protestant ou le mouvement des réformateurs. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient seulement la Bible. C'est une des cinq grandes déclarations, sola scriptura.
Quand tu dis seulement la Bible, ça veut dire le Nouveau Testament ou...
Ben, l'Ancien Testament, dans le fond, ça parle des Juifs.
Ouais, c'est
mais
ça.
Ça illustre quand même, avec l'expérience des Juifs, ce que Jésus est venu accomplir dans le Nouveau Testament. Donc, sola scriptura, c'était une des choses, ça voulait dire seulement les Écritures comme autorité. Mais là, quand ils avaient des débats avec les dirigeants, les docteurs de la loi catholique, eux, ils citaient Jérôme, eux, ils citaient Augustin. Eux, c'était Ambroise, eux, c'était toutes sortes de pères de l'Église qui étaient après les apôtres et ce qu'eux avaient dit concernant les choses comme pour Marie. Dans le Nouveau Testament, tu ne verras pas la vénération de Marie. Dans la tradition, dans ces 400 ans-là, on a commencé à déclarer que Marie était particulière parce qu'elle était l'exemple d'une vierge qui s'était consacrée à Dieu. Même si elle a eu Jésus, elle est restée vierge quand même, s'était consacrée à Dieu, puis elle est le modèle, surtout pour le mouvement monastique qui s'est développé à partir du 5e siècle. Donc, on a poussé ça plus tard, on a parlé de son Immaculée Conception des siècles plus tard. Donc, elle n'avait pas de nature pécheresse, elle était différente de tous les êtres humains, à part Jésus-Christ, lui aussi, qui était parfait. Mais cette vénération-là lui a été donnée quand elle-même, dans le Nouveau Testament, elle parle de sa petitesse, du fait qu'elle était rien, une servante du Seigneur, puis c'est juste une grâce que j'ai reçue de Dieu de porter le Messie. Donc, il n'y a pas cet esprit-là. Donc, les réformateurs, eux autres, disaient, on n'adore pas Marie. Puis ça, c'était une des choses qu'ils voyaient dans le Nouveau Testament, que ça n'existait pas, mais les docteurs de la loi allaient toujours à cette tradition-là. Donc, il y a eu un concile qui a duré des années, le concile de Trente, 1545-1563. Dans ce concile-là, l'Église catholique, un des 21 conciles de l'Église, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des écrits de la tradition. C'est toi qui me posais la question.
Ça m'intéresse aussi.
Bien, elle a pris des écrits de la tradition, puis elle a monté ça. Certains disent qu'ils ont canonisé les écrits de la tradition comme étant égales au Nouveau Testament. Donc, dans le catholicisme, lorsqu'on parle de doctrine, du catéchisme, bien sûr, on peut faire allusion à ces écrits-là plutôt qu'aux écrits du Nouveau Testament. Par exemple, on ne parle jamais des sacrements. Les fameux sept sacrements du catholicisme ne se trouvent pas comme des sacrements dans le Nouveau Testament. Le sacrement du mariage... Oui, on parle du mariage, mais pas comme un sacrement. C'est quoi un sacrement? C'est une manière d'obtenir de Dieu une grâce spéciale parce qu'on obéit à quelque chose que Dieu veut, une ordonnance de Dieu.
Vous ne faites pas l'Eucharistie non plus, je pense.
Bien, il y a le repas du Seigneur dans le Nouveau Testament, mais il n'y a pas cette idée-là d'un sacrifice qui se trouve dans la messe. L'hostie, c'est un sacrifice expiatoire. C'est que Jésus, lorsque l'hostie est consacrée, le corps de Jésus quitte le ciel puis descend dans l'hostie, la transsubstantiation, et son sang descend dans le vin. Puis là, les gens participent, pas le vin, là, mais pour l'hostie, ils participent à ce sacrifice-là de Jésus-Christ. Donc, ça fait partie de leur vie, leur espérance dans la vie éternelle de pratiquer la messe. Puis il y en a qui le font plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Ça n'existe pas du tout dans le Nouveau Testament. On nous parle de la table du Seigneur, du pain, puis ce vin-là, qui représente ce que Jésus a fait comme un mémorial de son œuvre. Jamais on attribue un pouvoir quelconque, jamais on attribue une capacité quelconque à ce mémorial-là qui célèbre ce que Jésus a fait.
Ah, j'ai plein de questions, mais qu'est-ce que vous faites des hosties qui sont transformées en chair?
C'est ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est
non, mais ça existe maintenant, tu sais, il y a des miracles qui existent.
Oui, je dirais qu'il y a des miracles. Là, moi, Je m'ai entendu parler de styles qui sont transformés en chants.
Non, c'est vraiment très intéressant.
OK, mais ce serait quelque chose à regarder, effectivement.
Moi, je trouve ça passionnant. En fait, j'ai envie de le raconter parce que c'est vraiment intéressant. Il y a un livre qui a été écrit en 2024, je pense c'est l'année dernière, par Didier Van Kovelaar, qui s'appelle « L'insolence des miracles ». Super intéressant pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à tout parce que c'est... Comment je pourrais dire ça? Ça met de la joie à lire ce livre-là parce que qu'on ait la foi ou non, c'est comme si on est mis face à l'émerveillement de quelque chose qui ne s'explique pas. Fait qu'il va parler de Lourdes. Puis pour moi, bon, la Sainte Vierge est très importante là-dedans, justement. Mais pour parler de cet exemple-là, qui est, je vais essayer de le raconter comme il faut. Là, je ne suis peut-être pas bonne avec les dates et ces affaires-là, mais c'est en 96 à Rio de Janeiro. Parce que, bon, quand on fait la messe lors de l'Eucharistie, si un hostie qui tombe à terre, tu ne peux pas le jeter dans une poubelle parce que ça représente le corps du Christ. Alors, il y a une croyante qui est venue voir le prêtre après pour lui dire qu'elle avait trouvé une hostie par terre qui était tombée. Elle lui donne, puis il suit la tradition, c'est qu'il le met dans l'eau, il le met dans le tabernacle. Il attend quelques jours qu'elle se dissolve, puis après, il est supposé la jeter. Il revient trois jours plus tard, est encore là, c'est pas dissolu, puis en plus, elle a commencé à saigner.
Oh wow.
Alors là, il comprend pas trop ce qui se passe, et à ce moment-là, justement, celui qui est l'évêque de sa région, c'est celui qui est devenu pape Francis, dont le nom, mais c'est comment il s'appelle, non? En tout cas, il y avait un nom, François, en tout cas, peu importe. J'y mélange toutes. Pour moi, c'est toutes des corrompus, mais peu importe. Fait que je suis désolée. Alors...
Et tu m'as permis de venir chez toi.
Mais non, mais t'es pas un pape. J'ai de la misère. Tu sais, quand t'es en position d'une autorité suprême comme ça, tu peux juste être trop tenté par ton ego, mais je pense que le pouvoir corrompt, là. Alors, donc, pour finir mon histoire, parce qu'elle est vraiment intéressante, il vient, il fait « Wow, OK, c'est sérieux, mais on dirait qu'il veut pas trop toucher à ça, ça a l'air trop sérieux. Remets ça dans le tabernacle, ferme la clé, on n'en parle plus. » Et il a laissé ça pendant des années, jusqu'à ce qu'il revienne. Puis là, il était rendu archevêque ou je ne sais plus quel poste. Puis là, il se rappelait de tout ça, puis il a fait « On va faire des tests là-dessus. » Il est revenu, et il avait toujours du sang. Puis là, elle pulsait, elle s'est transformée vraiment en bout de chair. Et donc, ils ont commencé à faire des tests en disant pas au docteur c'était quoi.
Oui, oui.
Alors, un des meilleurs cardiologues au monde, il lui donne l'hostie, mais sans lui dire, le morceau de chair. Il commence à faire ses analyses, c'est filmé d'ailleurs, vous pouvez le trouver en ligne. Et il est un peu scandalisé parce qu'il dit, mais le cœur est vivant. Ça veut dire que vous l'avez prélevé il y a moins de 20 minutes parce que les globules blancs se comportent encore comme s'ils étaient vivants. Alors là, il est vrai. Puis il dit c'est un péricarde, puis il montre de l'inflammation. Donc, ça veut dire qu'il a été sévèrement battu. Alors, il montre les signes de la passion en plus.
Ouais.
Et là, il est vraiment comme en état de... Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Là, il est où le patient? Là, il est où le cœur? Puis là, finalement, les gens lui disent, non, c'est un hostie qui s'est transformé. Alors, il tombe un peu en bas de sa chaise. Et ils ont fait les tests d'ADN. Parce qu'il y a du sang. Et c'est le même ADN qu'on retrouve sur le linceul, donc de type AB. Mais non seulement c'est le même type de sang, mais c'est vraiment le même ADN. Donc, il appartient au même homme que celui qu'on retrouve sur le linceul de Turin. Ça, c'est un miracle. Mais lisez le livre, ça s'appelle « L'insolence des miracles ». C'est fascinant, fascinant. J'ai adoré ce livre-là. C'est très bien documenté. Puis ça m'a amené, moi, personnellement, à faire « Ben, wow, il a vraiment existé, tout le monde étant comme la méga... » Ben, j'ai jamais douté de l'existence du Christ. Je veux dire, j'ai été dans une école catholique. Mais j'étais, tu sais, la Hermione Granger qui avait toujours la main levée dans mes cours de religion parce que je voyais toutes les... Oui, mais si Dieu est aimant, pourquoi il a tué les Égyptiens? Il y a comme tellement de choses qui... Il y a tellement d'incohérences que j'avais de la difficulté à embrasser cette foi-là, dans les dogmes, toutes ces choses-là. C'est sûr que je me braque contre ça, mais juste de penser que cet hostie-là s'est transformé en cœur avec des signes d'inflammation, c'est le péricarde. Je trouve ça juste comme tout à fait fascinant. C'est fascinant, puis ça m'amène à avoir envie d'y croire, en fait. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait, d'y croire? Tu sais, c'est pas menaçant, c'est pas, on m'impose pas une foi. Moi, Marie est très importante depuis que je suis maman. Je prie à Marie régulièrement, je la sens présente. C'est pour ça que j'irais pas forcément vers une foi officielle dans une boîte. Je suis pas en train de réduire ta foi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire, là. Mais on dirait que tout m'intéresse. Fait que, tu sais, de savoir qu'il y a eu autant de guérisons à Lourdes, je trouve ça vraiment extraordinaire, tu sais. Puis après, on peut pas expliquer, mais peut-être que c'est juste l'effet placebo. Qui sais-je? Que sais-je? Peut-être que c'est juste ça. Mais pour en revenir à ce fameux, tu sais, si je t'entends dire ces mots-là, tu sais, accueillir le Christ dans son cœur, Jésus vous a sauvé. Tu sais, il y a quelque chose qui amène les gens à se braquer là-dedans. Il y a quelque chose qui... C'est comme... c'est lointain, c'est comme, de quoi le Christ m'a sauvé il y a 2000 ans, tu comprends-tu? T'sais, comment expliquer ce concept-là à quelqu'un? C'est tellement abstrait.
Mais disons que c'est très, très tangible. Moi, je dirais ça que c'est très tangible parce que, en passant, ça fait 25 ans. 25 ans que je partage ma foi publiquement.
Que t'es pasteur.
Non, non, ça fait 34 ans
OK.
que je suis dans le ministère chrétien. Mais
OK.
ça fait 25 ans que je suis dans. J'ai un aspect plus évangélique, si on pourrait dire, alors que je partage à chaque semaine, je vais voir des gens dans la communauté, puis je parle avec eux de ma foi. Donc, c'est quelque chose qui est pas étrange pour moi. Puis le scepticisme, je connais ça moi-même à l'âge de 15 ans, avant ma pire période de consommation, il y a des gens qui sont venus chez moi cogner. C'était pas des témoins de Jéhovah, parce que ce qu'ils avaient à dire, ça avait rien à faire avec Jéhovah. C'était pas des mormons non plus. C'était vraiment Jésus-Christ, puis comment est-ce qu'il t'aime, puis qu'il veut venir dans ta vie. Je les ai envoyés promener. Moi, je comprends ça, là. Je comprends exactement la réaction. Puis cette semaine, j'étais en train de parler à un monsieur, un grand gaillard, 6 pieds 4. Il dit, t'as pas parlé à la bonne personne. Je veux juste te le dire. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, ben je comprends votre réaction. J'ai dit, j'ai toujours un dépliant qui fait juste prendre des versets des évangiles puis qui explique comment est-ce qu'on peut être réconcilié. Peut-être personnellement, ça vous intéresserait. Il dit, pas du tout. J'ai dit, ben OK, ben il n'y a aucun problème. Bonne journée.
Ouais.
Puis là, il s'est comme calmé. Puis il dit, toi aussi, bonne journée, là. Puis bon courage dans ce que tu fais. Fait que je me laisse pas intimider par ça, mais je comprends d'où les gens viennent.
Je comprends.
Mais quand on expérimente ça, après ça, ça nous accompagne. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Puis il est présent dans ma vie. Il est présent pour me guider. Moi, je prépare 3 études par semaine à l'Église que j'enseigne, les prédications, tout ça. Je dépends de lui. Je dépends de sa direction pour savoir quoi enseigner, puis ça. Puis je le vois toujours qu'il me montre comment présenter les choses, comment articuler les choses. Une des choses que Dieu dit concernant, justement, un ministre du culte, si tu veux l'appeler comme ça, ou un pasteur, c'est qu'il doit être apte à enseigner. C'est un don que Dieu donne à ses dirigeants. J'ai jamais enseigné avant de connaître le Seigneur. Puis d'ailleurs, une fois que je me suis joint à l'Église, une fois que j'ai commencé à parler avec les gens ont dit, oh, c'est vraiment un beau don, toi, pour nous partager ce que tu vis, puis nous partager. Puis là, je suis devenu un enseignant assez, j'ai complété un bac en théologie, tout ça, puis j'ai commencé à enseigner. Mais c'était pas de moi. Mais c'est une des choses, quand j'enseigne, je suis rempli de joie. Dieu dit, quand tu mets au service des autres ce que je t'ai donné, il dit, je vais te donner de la joie. Puis c'est toutes des choses d'une expérience
C'est ça.
tangible. Fait que oui, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il est ressuscité des morts, il est vivant pour toujours, puis il nous dit, venez par moi. Si vous voulez passer par moi, je vais vous permettre de connaître Dieu puis d'avoir cette relation-là. C'est vraiment une relation plus qu'une religion. Des fois, les gens disent, ah, oh, tu veux que j'aille à ton église? Pas du tout. Je veux que tu considères Jésus, ce qu'il a fait pour
Ça
toi.
peut, ça, j'adore ce que tu dis en passant, là, mais moi, je pense que là où les gens se braquent, où je me braque, où mon père se braque, c'est là où ça devient un dogme, puis que tu peux plus questionner. C'est là que je pense que, tu sais, mettons, j'ai été intéressée par la philosophie tibétaine bouddhiste parce que j'aimais le fait que c'était une philosophie. Tu sais, j'ai fait une semaine de retraite, puis tu pouvais poser des questions sans arrêt. J'arrêtais pas d'en poser, j'aimais ça. Tu sais, ils étaient ouverts à entendre moi, comment je voyais ça. Ils veulent que tu développes la raison. Je suis pas en train de dire que c'est pas ça que vous faites, là. Au contraire, je ne sais pas, je suis jamais allée, mais ben, les fois que je suis allée, c'était dans des. Si j'allais à Pâques, mettons, ça s'y prête pas, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, je pense que il faut encourager chacun à vivre sa relation personnelle avec son Dieu intérieur, là, tu sais, la relation avec Dieu. Puis c'est pour ça que j'ai tendance à me dire, tu sais, quand le monde me dit, moi, mais toi, tu crois-tu en Dieu? Ma relation est intime. Elle regarde pas, Hello veut savoir, elle regarde pas ma chaîne.
Non, non, c'est ça.
Puis elle évolue aussi. Tu sais, j'ai changé beaucoup depuis 5 ans. Je suis beaucoup plus ouverte à parler de Jésus, mettons ouvertement,
Oui,
depuis
ben oui.
5 ans. Parce que j'ai évolué là-dedans. Puis, tu sais, je suis très à l'aise de le dire. Mais je continue d'avoir plein de questionnements, tu sais, comme l'hostie ou ben genre, il a dit, vous ferez ceci en mémoire. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Mais je veux dire, j'ai des questions sans arrêt. J'arriverai jamais au bout de mes questions.
Mais peut-être que je peux juste résumer.
Oui.
Là, en parlant de ce que tu as dit, il faut comprendre que Dieu, c'est une personne.
Est-ce
Puis
vraiment une personne?
c'est une personne, il a une personnalité, il se connaît, il exprime qui il est, ce qu'il désire, comment il ressent les choses. Puis dans les Écritures, il y a une belle image de qui Dieu est. Mais c'est un peu comme ton copain. Là, vous êtes ensemble, puis vous avez, depuis quelques années, marché ensemble. Est-ce que vous avez eu des enfants ensemble?
Oui, on a 2 enfants, puis on se marie cet été.
Bon, félicitations. Mais ce que je te dis, c'est que pour pouvoir faire ces accommodements-là, pour fonctionner avec ton copain, il a fallu que tu apprennes à le connaître.
Mm-hmm.
Tu vois sa personnalité, tu vois sa volonté. Puis là, tu ne peux pas dire « oui, mais il faut que je vive ça autrement, notre relation.
Mm-hmm. »
Sans considérer qui tu es, sans considérer ce que tu veux. Parce qu'il faut que je me fasse ma propre idée personnelle, parce que sinon, je ne serais pas épanoui. C'est comme un dogme, là, que lui, il est comme ça, puis on grandit, là, après 33 ans, on grandit ensemble. Mais vois-tu comment de dire qu'il ne faut pas avoir des certitudes, des vérités, des dogmes, puis ainsi de suite. Mais Dieu, dans les Écritures, nous dit « voici ma volonté, voici qui je suis, voici ce que je veux ». Fait que ça, je voulais juste dire ça comme commentaire. Mais je veux revenir pour décortiquer les tout.
Ouais,
le tout 16e siècle, le début de la réforme protestante, le début de ces églises-là qui reviennent juste aux Écritures. L'Église catholique fait une contre-réforme, elle canonise les écrits des pères, puis en plus de ça, elle ajoute 7 livres à la Bible elle-même qu'on appelle les apocryphes.
Mm.
Donc, il y a 15 apocryphes qui ont été découverts de l'époque là, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, par contre, puis ils ont décidé de prendre 7 de ces apocryphes-là puis de les rajouter. Pourquoi? Parce que nous, notre Bible a 60 livres, la Bible catholique a 73 livres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que certaines des informations dans ces livres-là qui vont bien avec leur vénération des saints, ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, avec la vénération de Marie, puis avec différentes choses. Donc, encore une fois, ça vient rajouter une tradition à ce qu'ils croyaient. Donc, les réformateurs, ils se développent. Ils se répandent en Europe. Il y en a qui viennent justement dans les premiers pèlerins 1620 qui arrivent aux États-Unis. Eux, ils sont plus anglicans. Mais l'Église anglicane s'était déjà séparée parce que l'Église anglicane, c'était l'Église catholique anglaise qui était totalement liée au pape.
Okay.
Jusqu'à l'acte de suprématie 1534 où le roi a dit, Henri VIII, je pense, il a dit « c'est terminé, c'est moi maintenant le chef de l'Église ». Donc l'Église anglicane est devenue plus protestante, mais elle a gardé quand même beaucoup de choses que le catholicisme croyait. Donc ils arrivent dans différents autres pays, il y a des efforts pour développer l'œuvre missionnaire, d'envoyer des missionnaires à travers le monde, puis ça continue depuis.
Mm-hmm.
Mais la raison pourquoi je te disais ça, c'est que là, les réformateurs ont commencé, eux autres aussi, à dériver, à établir des choses qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament avec le temps. Les fondateurs du mouvement, eux autres, étaient très bibliques, on pourrait dire. Là, ça a commencé à dériver. Fait que là, il y a du monde qui ont sorti des mouvements réformateurs. Puis, ils ont parti des églises évangéliques.
Okay.
Puis là, aujourd'hui, on a le catholicisme, l'Église traditionnelle, l'Église orthodoxe grecque aussi, l'Église orthodoxe russe, qui est le catholicisme oriental, puis ainsi de suite. Puis ensuite, on a les églises protestantes, on pourrait dire les luthériens, les presbytériens, puis ainsi de suite. Mais on a les églises évangéliques. Puis eux, ils disent, nous, on ne fait pas ce compromis-là, on va juste se baser sur la Bible. Il y avait déjà des mouvements à travers l'histoire, même à l'époque du catholicisme, qui étaient des églises, si on pourrait dire, ignorées, parce qu'eux disaient, non, on ne veut pas faire de compromis avec la tradition, on veut rester avec la Bible. Donc, les évangéliques étaient là à travers l'histoire, mais c'est plus difficile de les voir. Il y avait quand même l'Inquisition, il y avait quand même des persécutions sur ceux qui ne faisaient pas partie de l'Église.
Il y a des persécutés dans l'Inquisition.
C'est ça, donc les hérétiques, là. Ils se cachaient beaucoup. Mais là, à partir là, du 18e siècle, surtout, il y a une explosion d'églises évangéliques qui se sont surtout développées en Europe et au Canada, aux États-Unis. Puis ça. Ces églises-là, comme les pentecôtistes, les églises baptistes, les églises des frères, les églises de l'Alliance, eux disent, on ne veut rien savoir de la tradition. Donc, on n'arrivera jamais à avoir des statues dans nos assemblées, dans nos bâtiments. Parce que la Bible, le mouvement iconoclaste, en passant, a été aussi populaire dans le milieu, si on pourrait dire, catholique à différentes époques. Iconoclaste, c'est-à-dire se débarrasser des idoles, pas avoir des statues de Marie, puis des
quand même,
des
Dieu a demandé qu'on ne vénère aucune idole, sauf lui.
C'est ça, puis même, il a dit dans son tabernacle qu'il ne voulait pas aucune statue d'établie près de son lieu de culte.
C'est dur de comprendre qu'il y en ait autant.
Mais ça s'est développé avec le mouvement le mouvement en Europe de l'immigration. C'est qu'il y a de plus en plus de peuples barbares qui ont été évangélisés par le catholicisme, qui se sont joints au catholicisme, puis eux étaient habitués à adorer les ancêtres. Puis le catholicisme a fait ce changement-là pour leur permettre d'avoir quelque chose de visuel, pour leur permettre de s'identifier au catholicisme qu'ils venaient d'accepter dans leur foi personnelle. Mais là, il y a eu quand même des réformes, mais ça n'a pas duré. Puis des choses comme être un dirigeant de l'Église, puis être marié, ça a commencé en 1054, que les dirigeants devaient être célibataires.
Ah ouais, OK.
Avant ça, c'était un peu libre, c'était proposé, mais ce n'était pas un dogme encore. Puis en 1054, l'Église orthodoxe grecque, eux autres, ont dit « Wow, nous, on ne croit pas cela. » Donc, ils se sont séparés. Il y a eu le schisme avec l'Église catholique.
Qu'on fait de se marier?
Oui, continuer okay, okay. À part pour, je pense que certaines positions, comme l'archevêque ou le patriarche, que lui devait être célibataire, ça, je ne suis pas certain. Mais pour le restant des ouvriers, les diacres, les personnes, là, ben oui, c'est important. Comment est-ce qu'on peut aider les gens? Si on n'a pas l'expérience familiale, comment est-ce qu'on peut aider les gens si on n'a pas l'expérience filiale avec les enfants, puis ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un me parle de ses tentations, quand je rencontre une femme, je suis toujours avec mon épouse, là, je ne rencontre pas seule, mais si une femme nous partage là, les problèmes qu'elle vit avec son mari, bien, on peut les conseiller parce qu'on a cette expérience-là.
Ouais, c'est
ça. Il n'y a pas la tentation d'être célibataire pendant toutes ces années-là de fécondité, puis il y a tous les abus, puis ainsi de suite. En tout cas, malgré qu'il y a en masse d'abus qui se sont produits dans les autres groupes. Là. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus.
La chasteté amène aux abus, en fait, parce que c'est de réprimer une pulsion qui existe. Fait que c'est sûr qu'il y en a dans... Puis on parle tout le temps des catholiques, mais je veux dire, il y en a sûrement dans les moines bouddhistes, puis il y en a partout.
Mais donc, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les églises traditionnelles, comme j'ai dit, l'Église catholique, l'Église orthodoxe grecque et russe, on a l'Église anglicane, qui, elle, se dit protestante, mais qui est quand même très similaire au catholicisme. Puis là, on a les églises protestantes, les vieilles dénominations, les méthodistes, les luthériens, puis bien sûr.
Il y en a-tu?
Et là, il y a la saveur évangélique. Puis dans tous ces groupes-là, ce sont les évangéliques qui disent « on veut seulement se limiter à la Bible ». Même les protestants ont développé des traditions.
Donc, vous prenez l'Ancien Testament aussi en considération.
Parce que l'Ancien Testament, c'est le berceau
qu'amène
de l'œuvre de Jésus-Christ.
Je comprends.
Qui explique c'est qui ce l'agneau de Dieu qui allait venir mourir pour les péchés du monde.
Mais pour vous, quand même, l'ultime centre, c'est le Nouveau Testament.
Oui, c'est le Nouveau Testament. Donc, c'est pour ça que je suis un pasteur, mais je suis marié, j'ai des enfants. Parce qu'on a refusé ce dogme-là en 1054, puis ainsi de suite. Et toutes sortes d'autres choses. Le sujet qui nous distingue le plus, c'est le salut. Comment est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu?
C'est pas pareil comme les catholiques?
Non, parce qu'il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a pas d'effort personnel. Jésus, quand il est mort, il a dit « Tetelestai » en mourant. Tout est fait. Tetelestai, ça veut dire « c'est complété ». J'ai payé le salut. Puis le salut, c'est quelque chose qui se reçoit gratuitement. Jésus a payé avec son propre sang, le sang précieux de Jésus. Il donne ça comme un cadeau. Puis là, l'être humain peut recevoir le cadeau ou refuser le cadeau. Mais il aimerait ça, qu'on le laisse rentrer dans sa vie. Donc, nous, on dit toujours Jésus. Jésus, Jésus, c'est lui qui a tout payé. C'est lui qui t'a aimé entièrement. Puis c'est lui que tu peux recevoir dans cette relation-là personnelle. On ne parle pas de bonnes œuvres, malgré qu'après qu'on ait connu Jésus, Dieu nous encourage à changer notre style de vie, à pratiquer de la bonté, de l'amour envers les autres, parce qu'il est amour lui-même. On ne parle pas de sacrement, ce n'est pas dans la Bible. On ne parle pas d'être membre d'Église pour pouvoir gagner notre ciel d'une manière ou d'une autre. Ce n'est jamais nos efforts. C'est 100% Jésus.
J'aimerais ça comme terminer. Je trouve que en tant que femme, entendre ça, souvent, ce qui m'énerve des religions, puis j'ai voyagé, là, j'ai été dans bien des pays, qu'il y a bien des religions, la femme n'est jamais vraiment comme le cœur de ça. Puis, tu sais, je me dis, on parle de progressisme depuis tantôt, mais dans le vrai progrès, il me semble qu'on devrait s'attendre à avoir des femmes pour avoir des positions d'autorité comme les hommes. J'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, la position de la femme. Pour moi, c'est pour ça aussi que j'apprécie que Marie elle a une place importante parce que je vois comme une espèce d'équilibre entre le yin puis le yang, la femme là-dedans, la dimension féminine de donner la vie aussi, le sacré de ça. Mais j'aimerais ça savoir un peu, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi il n'y a pas de femmes qui peuvent devenir prêtresses ou qui ne peuvent pas devenir...
Mais j'aimerais juste dire, en commençant, que quand les instructions du Nouveau Testament ont été données, c'était très progressif, très révolutionnaire au Moyen-Orient. Même dans le peuple juif, la manière que la femme était considérée. Une femme n'avait pas le droit d'aller devant un juge puis de se défendre si elle n'avait pas une autre personne avec elle. Une femme valait la moitié d'un homme au niveau juridique.
Fait que ça, longtemps c'était... qu'on a du chemin à faire.
Oui, oui. Fait que ça, c'est un élément. Là, il y avait toutes les autres nations, puis plutôt plus tard, au 6e siècle, avec le développement de l'islam, où la femme, finalement, était considérée presque inhumaine. Qu'elle n'avait pas un statut, c'était du bétail presque. Mais il y avait plusieurs nations comme ça. Donc, Paul, puis l'influence du christianisme a amélioré le rôle de la femme, la liberté de la femme. Une femme était autant sauvée qu'un homme, une femme était autant aimée qu'un homme, une femme... Fait que le statut, l'homme devant Dieu, là, il dit, il n'y a plus d'homme, puis il n'y a plus de femme. Comme il n'y a plus de grec, puis il n'y a plus de juif, puis il n'y a plus de ces distinctions sociales-là, on a une relation personnelle, on a un accès personnel, on a des dons que Dieu nous a donnés. Mais dans la structure du Nouveau Testament, ce que Dieu a refusé, c'est que la femme puisse avoir de l'autorité sur l'homme. Puis ça, ça se retrouve dans différents passages où on explique ça. Des beaux dons, elle peut exhorter des hommes, elle peut aller reprendre des hommes sans problème, mais pas dans une position d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité dans l'enseignement de l'Église. Puis Dieu sait pourquoi, a décidé que la femme n'aurait pas cette autorité-là. Donc, dans les églises évangéliques, il y a quand même des femmes pasteurs, il y a des femmes évêques, puis ainsi de suite. Mais en général, ce sont des églises qui sont moins fidèles à la parole de Dieu.
Qui ont des pasteurs qui sont trans aussi, puis qui sont...
oui, mais ça, c'est plus des églises protestantes qui sont rendues loin, là, comme je disais, qui ont des homosexuels, des trans, puis ainsi de suite. Mais... puis d'ailleurs, c'est un des grands défis en ce moment pour les organismes de bienfaisance, dont les églises chrétiennes, parce que le gouvernement veut que ça change et veut
couper un peu les vies,
imposer des choses. Donc,
ça devient une guerre politique, là, à ce niveau-là, c'est très politique.
Oui. Fait que moi, je respecte que Dieu a fait ce choix-là pour X raisons. Il donne l'exemple d'Ève, on remonte bien plus loin que Marie. Ève, l'influence qu'elle a eue sur son mari, puis son mari, que, étant un homme, étant faible, a suivi cette influence-là, parce qu'une femme, c'est soit une bénédiction dans les Écritures, ou ça peut être un problème. Puis, la relation conjugale, c'est la relation qui est le noyau même de la société, mais c'est le noyau de la famille. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de front commun. Donc, quand la femme est prête à s'agencer, puis les deux sont assez humbles pour s'écouter, puis s'entendre ensemble, moi, mon épouse, elle me le partage. T'sais, elle dit, OK, bon, là, tu vas aller faire ça. Hey, je t'encourage à faire attention là-dessus. Puis on a confiance l'un à l'autre. Puis elle est vraiment ma conseillère principale. Elle est mon amie. Là. Puis elle est là pour dire, fais attention avec ça. Parce que des fois, moi, je ne vois pas les choses. Puis nécessairement, les hommes puis les femmes, c'est toujours comme ça. On se complémente. Mais c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que les gens sont frustrés par ça. Oui, c'est vrai que les gens demandent une égalité à ce niveau-là. Mais les églises évangéliques, on ne touche pas à ça.
Je comprends.
Parce qu'on respecte la sagesse de Dieu, là.
Parfait. Je respecte ton point de vue. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre tout ce que tu as à dire par rapport à ça. Puis, tu sais, j'espère aujourd'hui que les gens vont avoir une vue d'ensemble sur... vraiment, la vie que tu as eue, puis comment tu as réussi à reprendre les commandes. Tu disais tantôt, tu sais, que tu es rendu père de famille.
Grand-papa.
Puis grand-papa, hein, c'est ça qu'on s'était dit au téléphone. Finissons avec ça. Comment tu as trouvé ça, devenir papa? Toi qui n'avais pas eu une bonne expérience avec le tien.
Disons que c'était mon questionnement. Quel genre de père j'allais être? Ouais. Surtout que notre premier, c'était un garçon. Puis là, je me suis dit, est-ce que je vais être capable d'être un bon père? Puis, pour moi, ça a été naturel. Un père imparfait. Mon fils me le dit des fois. Ça, j'aurais aimé ça, là, que tu fasses ça, puis que tu fasses pas ça, puis ça. Mais quand même, j'ai jamais été violent. J'ai jamais rejeté mon fils. J'ai jamais dit, là, tu fais pas partie de ma famille. Puis, toutes ces choses-là, là, encore une fois, le cycle avait été brisé. Mais la joie, quand mon épouse a accouché, de voir que finalement, je pouvais à être un père de famille. Ça, ça a été très, très
intense. C'est au moment de l'accouchement
intense,
que tu as goûté à ça?
Ben, j'étais là à chaque accouchement, ouais. Là, mais le premier accouchement, on dirait qu'il y avait quelque chose de spécial, de dire « wow, c'est fait
mm-hmm. ».
Puis j'ai été capable de sortir de ma misère. Ben, moi, je ne dis pas « moi, j'ai été capable », mais j'ai été accompagné, puis j'ai eu la grâce de pouvoir sortir de cela, puis d'être un père. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé jouer avec mes enfants, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec eux, puis faire des choses, même encore aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui descend des États avec son mari puis son fils, puis ils vont venir passer, on fait un petit club de vacances bibliques pour les jeunes, là. Puis lui il a travaillé des années avec des clubs, là, puis il est très, très habitué, fait, je dis, c'est pas ma force, viens donc faire un tour, fait qu'ils vont descendre, on a hâte samedi qu'ils arrivent, là, puis fait que c'est comme une récompense de pas être resté dans cet esprit-là morose, puis défaitiste, puis d'avoir finalement rebâti sa vie. Moi, je prends aucune gloire, mais d'avoir été en mesure de rebâtir ma vie.
Mm-hmm.
Puis j'ai une grande, grande joie. Quand je pense à mon passé, dans le fond, maintenant, je suis libre, comme j'ai dit, j'ai été auprès de ma famille, mon père en particulier, qui était le pire, selon moi, dans tout ça.
Mm-hmm.
J'ai investi 25 ans. Aller le voir jusqu'à son décès.
Il est décédé.
Puis aller lui donner de l'amour, puis aller lui montrer, puis apprendre aussi que lui, il avait été rejeté par son père.
Mm-hmm.
Puis qu'il y avait différents contextes aussi personnels qui l'avaient amené. Des fois, il s'ouvrait. Jamais mon père, il me disait ce qu'il vraiment pensait, à part qu'il critiquait ma foi, puis il critiquait là. Il disait toujours, t'es pasteur parce que tu veux faire de l'argent.
Ah,
lui, il voyait les télés évangélistes avec les millions de dollars par année, puis les grosses maisons, puis ça. J'ai dit, papa, je ne suis pas dans le même contexte.
Non, c'est ça.
Mais c'est ça. Donc, même jusqu'à la fin, il était toujours critique. Mais toutes ces années-là, j'avais la paix. Je suis en train de te donner ce que toi, tu n'as pas pu me donner.
Mm-hmm.
Puis je suis joyeux parce qu'il aimait mes enfants. Il aimait mon épouse. Il l'aimait. C'est un baume pour lui, là, dans ces circonstances qu'on fasse ça. Donc, encore une fois, une transformation. Totalement, la direction de ma vie là, était totalement différente.
Toutes tes relations, finalement, ont été transformées, même si elle avait été...
Oui.
Ben écoute, je te souhaite vraiment du beau temps en famille samedi.
Merci.
Ton fils, puis c'est ton fils qui vient de...
Non, c'est ma fille.
OK, OK. Bon, ben bon temps en famille, c'est tellement important. Puis merci d'être venu partager ton vécu, merci d'être ouvert comme ça. Je suis sûre que ça a touché beaucoup de gens.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Oui.